donc nous fera passer du numéro 24 au numéro 34. Jean-Paul II ouvre ce nouveau chapitre en faisant référence à une rencontre historique entre foi et raison. Dans son discours aux philosophes d'Athènes, Saint Paul met en lumière cette vérité incontournable. Au plus profond du cœur de l'homme sont semés le désir et la nostalgie de Dieu. Jean-Paul II relève qu'en tout temps, l'homme manifeste ce désir intérieur par l'art dans lequel il exprime les aspirations de sa recherche. Et il ajoute « La philosophie, de façon particulière, a épousé ce mouvement et a exprimé, avec ses moyens et selon les modalités scientifiques qui lui sont propres, ce désir universel de l'homme. Même si ce désir peut paraître parfois bien enfoui, caché, au point d'en être oublié, il demeure pourtant inscrit dans la nature de l'homme, et il existe, nous dit Jean-Paul II, un chemin que l'homme peut parcourir s'il le veut. Ce chemin part de la capacité de la raison de s'élever au-dessus de ce qui est contingent pour s'élancer vers l'infini. De là découle toute la logique de ce chapitre. En premier lieu, et ce sera la première partie, Jean-Paul II relève que l'homme est un être en quête de vérité. Puis, ce sera la deuxième partie, cette recherche de vérité l'amène à vivre de croyance, attitude qui non seulement enrichit sa connaissance, mais plus encore perfectionne sa personne. Et enfin, en s'interrogeant sur le sens de son existence, l'homme tend naturellement vers l'absolu, cet absolu qui nous est révélé dans la personne même du Verbe incarné, qui seul peut combler totalement les attentes les plus profondes de l'homme. Première partie donc, l'homme est un être en quête de vérité. L'homme veut connaître la vérité. La réalité quotidienne témoigne de cette aspiration. Tous les hommes aspirent à la connaissance, disait Aristote. Or, l'objet de cette aspiration, c'est la vérité. Et la vie quotidienne elle-même nous montre que chacun éprouve de l'intérêt pour découvrir, au-delà du simple oui-dire, comment sont vraiment les choses. Notons que l'homme n'est pas indifférent à la vérité de son savoir. De manière générale, je suis assez contrarié quand l'autre me montre que j'ai tort. Par contre, je trouve une certaine satisfaction à prouver que j'ai raison. Saint Augustin disait « J'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient tromper, mais personne qui voulait se faire tromper. » On juge de quelqu'un qu'il est adulte selon sa capacité de discerner par ses propres moyens ce qui est vrai de ce qui est faux, en se formant un jugement sur la réalité objective des choses. Si parvenir à cette réalité objective est l'objet propre des sciences, ce qui a favorisé un authentique progrès de l'humanité tout entière, cette recherche est aussi indispensable au niveau des valeurs. Le professeur de morale insiste. La recherche réalisée dans le domaine pratique est aussi importante que celle qui est faite dans le domaine éthique. Je veux parler de la recherche de la liberté sur le bien à accomplir. Jean-Paul II rappelait ici Veritatis Splendor. Il n'y a pas de morale sans liberté. S'il existe un droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche de la vérité, il existe encore antérieurement l'obligation morale grave pour tous de chercher la vérité et, une fois qu'elle est connue, d'y adhérer. Et l'auteur de Personnes et actes de conclure, il est donc nécessaire que les valeurs choisies et poursuivies dans la vie soient vraies, parce que seules des valeurs vraies peuvent perfectionner la personne en accomplissant sa nature. Cette vérité des valeurs, l'homme la trouve non pas en se refermant sur lui-même, mais en s'ouvrant pour l'accueillir également dans les dimensions qui le dépassent. La question de la vérité rejoint aussi pour l'homme la question du sens de sa vie. L'expérience quotidienne de la souffrance, la vue de tant de faits qui, à la lumière de la raison, apparaissent inexplicables, suffisent à rendre inéluctable une question aussi dramatique que celle du sens. Il est un fait que la première vérité absolument certaine de notre existence, outre le fait que nous existons, est l'inéluctabilité de notre mort. Face à cette réalité, l'homme veut et doit connaître la vérité concernant sa fin. Peut-il espérer une vie ultérieure ou non? Personne ne peut échapper à ces questions, ni le philosophe, ni l'homme ordinaire. de la réponse qu'il aurait donnée dépend une étape décisive de la recherche. Est-il possible ou non d'atteindre une vérité universelle et absolue ? L'homme cherche une explication définitive, une valeur suprême, au-delà de laquelle il n'y a pas et il ne peut y avoir de questions ou de renvois ultérieurs. Les hypothèses peuvent fasciner, mais elles ne satisfont pas. Les obstacles à la recherche de la vérité. Il faut reconnaître, cependant, que la recherche de la vérité ne se présente pas toujours avec une telle transparence et une telle cohérence. La nature limitée de la raison, l'inconstance du cœur, les intérêts qui peuvent étouffer la vérité, la peur des exigences sont autant d'obstacles possibles. Jamais pourtant, l'homme ne peut fonder sa vie sur le doute, sur l'incertitude ou sur le mensonge. Une telle existence serait constamment menacée par la peur et par l'angoisse. On peut donc définir l'homme comme celui qui cherche la vérité. Et Jean-Paul II se veut foncièrement optimiste. Il nous dit « Il n'est pas pensable qu'une recherche aussi profondément enracinée dans la nature humaine puisse être complètement inutile et vaine. Le savant, sûr de son intuition de départ, est convaincu dès le commencement qu'il trouvera une réponse et il ne cède pas devant les insuccès. De même, dans le domaine des questions existentielles, chacun de nous porte en lui la hantise de quelques questions essentielles et en même temps garde dans son esprit au moins l'ébauche de leur réponse. Ce sont des questions dont on est convaincu de la vérité, notamment parce que l'on constate qu'en substance, elles ne diffèrent pas des réponses auxquelles sont arrivées beaucoup d'autres. Deuxième partie, l'homme en quête de vérité vit de croyance. L'homme ne cesse de croire dans sa quête de vérité. Il est un fait qu'une grande partie de la connaissance de l'homme se fait par voie de croyance. En effet, l'homme n'est pas une autonomie absolue. Il naît, il grandit dans une famille pour s'introduire plus tard par son travail dans la société. Dès sa naissance, il reçoit non seulement son langage et sa formation culturelle, mais aussi de multiples vérités auxquelles il croit presque instinctivement. Au fil de sa croissance et de sa maturation, il en vient à poser un regard critique sur ces vérités qui lui ont été transmises. Il en gardera certaines, il en rejettera d'autres, ce qui n'empêche pas que plus tard, ces mêmes vérités soient retrouvées sur la base de l'expérience qui en est faite, ou par suite en vertu du raisonnement. Relevons donc que dans notre vie, les vérités simplement crues sont beaucoup plus nombreuses que celles que l'on vérifie par l'expérience personnelle. Généralement, on ne cherche pas à vérifier les innombrables résultats des sciences sur lesquels se fonde la vie moderne. De même, et parfois peut-être à tort, on ne contrôle pas personnellement le flux des informations qui, jour après jour, parviennent à nous de toutes les parties du monde et que l'on croit généralement vraies. Il faut reconnaître que nous nous appuyons aussi sur les chemins d'expérience et de pensée par lesquels se sont accumulés les trésors de sagesse et de religiosité de l'humanité. L'homme, être qui cherche la vérité, est donc aussi celui qui vit de croyance. On peut, dans son acte de croire, chacun se fie aux connaissances acquises par d'autres personnes. Et on peut remarquer ici un certain paradoxe. D'une part, la connaissance par croyance apparaît comme une forme imparfaite de connaissance, puisqu'elle doit se perfectionner progressivement, jusqu'à l'évidence atteinte personnellement. Mais d'autre part, elle se révèle souvent humainement beaucoup plus riche que la simple évidence personnelle. Pourquoi ? Par le fait qu'elle inclut un rapport interpersonnel. Dans ce rapport, j'éprouve cette capacité de me fier à d'autres personnes et d'entrer dans un rapport plus stable et plus intime avec elles. La croyance perfectionne l'homme. Non seulement le fait de croire n'est pas irrationnel, c'est ce que nous venons de voir, mais en plus, il conduit l'homme vers sa perfection. Jean-Paul II écrit « La perfection de l'homme ne se trouve pas dans la seule acquisition de connaissances abstraites de la vérité, mais elle consiste aussi dans un rapport vivant de donation et de fidélité envers l'autre. La croyance, qui est confiance dans l'autre, achemine l'homme vers la perfection de son être. Dans cette fidélité qui sait se donner, l'homme trouve pleine certitude et pleine sécurité. En même temps, cependant, la connaissance par croyance, qui se fonde sur la confiance interpersonnelle, n'est pas sans référence à la vérité. En croyant, l'homme s'en remet à la vérité que l'autre lui manifeste. Pour illustrer ce propos, Jean-Paul II fait référence au témoignage des martyrs. Le martyr est le témoin le plus vrai de la vérité de l'existence. Il sait qu'il a trouvé dans la rencontre avec Jésus-Christ la vérité sur sa vie, et rien ni personne ne pourra jamais lui arracher cette certitude. En somme, le martyr suscite en nous, dit Jean-Paul II, une profonde confiance, parce qu'il dit ce que nous sentons déjà et qu'il rend évident ce que nous voudrions nous aussi trouver la force d'exprimer. Dernière partie, la vérité ultime révélée par le Christ. La quête de vérité ne peut aboutir que dans l'absolu. Comme l'avait déjà fait remarquer Jean-Paul II, l'homme par nature cherche la vérité, pas seulement des vérités partielles, observables ou scientifiques, pas seulement le vrai bien pour chacune de ses décisions. Sa recherche tend vers une vérité ultérieure qui soit susceptible d'expliquer le sens de la vie. C'est donc une recherche qui ne peut aboutir que dans l'absolu. L'homme peut atteindre une telle vérité non seulement par une voie rationnelle, mais encore par l'abandon confiant à d'autres personnes. Le phénomène de croyance, mis en lumière plus haut, est ici décisif pour atteindre ce but. L'homme ne peut se passer ni de son intelligence, ni de sa capacité d'aimer pour l'atteindre. La quête de sens de l'homme implique un engagement de tout son être, et l'on entrevoit déjà que seule une rencontre personnelle apportera une réponse adéquate. L'homme, dit Jean-Paul II, est engagé sur la voie d'une recherche humainement sans fin, recherche de vérité et recherche d'une personne à qui faire confiance. Le Verbe incarné répond aux attentes les plus profondes de l'homme. À ce stade, Jean-Paul II remarque que la foi chrétienne donne à l'homme la possibilité concrète de voir aboutir sa recherche. Dépassant le stade de la simple croyance, en effet, elle introduit l'homme dans l'ordre de la grâce qui lui permet de participer au mystère du Christ, dans lequel lui est offerte la connaissance vraie et cohérente du Dieu un et trine. Ainsi, en Jésus-Christ, qui est la vérité, la foi reconnaît l'ultime appel adressé à l'humanité pour qu'elle puisse accomplir ce qu'elle éprouve comme désir et comme nostalgie. Dernier point, le Christ unit vérité scientifique et vérité philosophique. La vérité révélée en Jésus-Christ n'est pas en contradiction avec les vérités que l'on atteint en philosophant. L'unité de la vérité repose sur le fait que le Dieu créateur est aussi le Dieu de l'histoire du salut. Le même et identique Dieu, qui fonde et garantit l'intelligibilité et la justesse de l'ordre naturel des choses, sur lesquelles les savants s'appuient en toute confiance, est celui-là même qui se révèle Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette unité de la vérité, naturelle et révélée, trouve donc son identification vivante et personnelle dans le Christ. Il est la parole éternelle en laquelle tout a été créé, et il est en même temps la parole incarnée que le Père révèle dans toute sa personne. En conclusion, Fides et Ratio réaffirment que l'homme est un être qui cherche la vérité. Il tend naturellement vers elle, car en elle se trouve l'accomplissement plénier de sa personne. Cette perfection de la connaissance implique l'activité de l'intelligence, mais aussi la fidélité et la confiance constitutive du fait de croire. Il faut affirmer que le fait de croire non seulement n'est pas contraire à la raison, mais qu'il est encore indispensable pour atteindre l'absolu. L'homme ne peut pas tout analyser par lui-même, mais il possède cette capacité singulière d'accueillir la vérité qui lui vient de l'autre et de la faire sienne. De par sa nature, l'homme est donc capable de rencontrer celui qui est lui-même la vérité. Il faut donc dire que l'activité de la raison prépare l'homme à la rencontre de la vérité en personne. Intellego ut credam, je crois pour comprendre. Il faut dire aussi que priver la raison de la foi chrétienne revient à priver la raison de la possibilité concrète de voir aboutir sa recherche.